Moi, je voulais être reporter de guerre et je l'ai fait. Et moi, c'était ça, mon but dans la vie, c'était de travailler pour la BBC et d'aller sur ce qu'on appelle des théâtres d'opération. Je me souviendrai toute ma vie de justement ce moment où j'ai atterri à l'aéroport militaire de Villacoublay avec des cercueils à côté. Et là, il était 4h du mat et il y avait mes parents, mes frères, mes sœurs et tout ça. Et je me souviens de la tête qu'ils faisaient, quoi. Enfin, et je me suis dit, à ce moment-là, t'as le droit, toi, de faire ce que tu veux, mais en fait, c'est dégueulasse de faire porter ça sur les autres. J'étais reconnue dans mon métier, j'avais déjà quelques galons accrochés à mon épaule, et là, je changeais complètement, et donc c'était hyper raide, quoi, d'avoir l'impression de servir à rien, de pas être compétente, de pas comprendre à quoi je jouais, enfin, c'est très, très, très inconfortable. Mais en vérité, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est un chemin qui est finalement très personnel. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me convient bien. Cet objectif d'intérêt général, ça a toujours été mon moteur. Donc aujourd'hui, je le fais à travers WeTrade Local. Je pense que là, j'ai trouvé un bon challenge quand même qui va m'occuper pendant un bon moment. C'est-à-dire, remettre du sens dans le commerce mondial. Je pense que l'objectif, il est bien. Et que la mission et le sens de ce que je fais aujourd'hui, il est là, quoi. Enfin, moi, je me sens très aligné avec ce que je fais. C'est en se plantant qu'on devient cultivé, que c'est pas grave de se tromper, etc. C'est couplé avec une forme d'ambition en plus. C'est-à-dire que c'est pas non plus c'est les deux. C'est vraiment ce truc de dire essaye, fais ce que tu veux, mais en même temps donne-toi les moyens, quoi.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans « Pourquoi pas moi ?», j'interviewe des personnes qui ont écouté leur petite voix. Parfois, cela passe par un ou plusieurs changements de vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une femme extraordinaire, dont le moteur est l'intérêt général. Avant que je vous en dise plus sur Hortense, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. En parlant autour de vous ou en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'aidera à inspirer de nouvelles personnes. Revenons-en à Hortense. Après des études à Sciences Po, un mois en agence, elle devient reporter de guerre. Elle enchaîne les rédactions pour accomplir enfin son rêve, rejoindre la BBC. Le métier de journaliste évolue et elle ne s'y retrouve plus. Elle change une première fois de métier en rejoignant Havas. Puis, fonde une première entreprise. Par le biais d'une belle rencontre, on lui propose un nouveau challenge et redevient salariée. C'est en devenant maman qu'elle sent que c'est le moment de réaliser un second rêve. Créer WeTrade Local, puis Fleur d'ici. Les entreprises ont aujourd'hui 3 ans et sont de très belles success stories. Je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'univers d'Hortense Aran. Bonjour Hortense.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ?
Alors, l'objet que j'ai choisi, c'est mon vélo. C'est un vélo électrique je l'appelle Bucéphale, qui est le nom, d'un cheval célèbre. Mon vélo, c'est pour moi un peu un symbole aussi de liberté, de mobilité, de modernité aussi, parce que je pense que c'est un des objets, en tout cas liés à l'émancipation des femmes et dans la mobilité évidemment. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait complètement partie de mon quotidien. Pendant le confinement, justement, j'en ai été privée et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi de faire cette heure et demie de vélo par jour. Alors, c'est du vélo électrique, donc souvent on se dit, mais en fait, je fais pas de sport et tout ça. Mais en fait, quand on s'arrête, on se rend vite compte que ça compte, aussi bien pour la tête que pour le corps. Donc c'est vrai que c'est tous les jours, c'est un espace pour moi de réflexion, de liberté, un peu hors du temps. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi.
D'accord. Est-ce que, avant qu'on parle de toi maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née ?
Alors moi, je suis une fille d'expat, donc je suis née à l'étranger.
Ça
au Portugal. Mes parents étaient à l'époque en poste là-bas et ensuite j'ai grandi en partie en Italie. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être très tôt exposée à des gens qui parlaient des langues différentes, ce qui m'a permis d'acquérir assez rapidement des compétences dans le domaine.
Parce que du coup, tu parles anglais parce que tu as vécu à Londres.
Ouais.
Portugais.
Je parle parfaitement anglais, italien. Ouais. Et français, j'espère. et après, je comprends et parle relativement bien l'espagnol, l'allemand, un peu d'arabe.
D'accord. Waouh, c'est chouette. Ouais. C'est un beau cadeau des parents pour la vie, ça.
Carrément.
Ouais. Et quel type de petite fille tu étais ?
Ouh, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait. J'ai rapidement eu la chance de faire du sport. C'est quelque chose qui a été très important pour moi. Depuis le CP, en fait, je fais de la gymnastique. Okay. J'étais championne de Paris de gymnastique.
Waouh, bravo.
Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a donné à la fois la notion de la résilience, du fait que cette compréhension que le corps et l'esprit sont intimement liés. Et qu'il ne faut pas oublier l'un au profit de l'autre. Aujourd'hui, je pratique le yoga de façon très régulière et c'est très important dans ma vie, les équipes le savent, c'est quelque chose qui est écrit dans mon agenda et qui ne bouge pas.
C'est important ça, quand on est, en plus quand t'es en entrepreneur et tout, de dire, de garder des créneaux et de... J'imagine que ça doit être parfois, tu dire, bah tiens, il y a un rendez-vous, il y a toujours un truc plus important, mais c'est vrai que c'est essentiel de se garder... Des moments pour soi et pour le sport, quoi.
Je pense que quand j'avais été à San Francisco il y a 2 ans pour suivre un séminaire, de start-up et tout ça, et j'en avais pas retiré grand-chose. J'avais trouvé que quand même c'était beaucoup de bullshit, mais j'en avais néanmoins retiré une chose, c'est que les investisseurs là-bas, avant de mettre de l'argent dans une boîte, te demandent de cocher 3 cases, c'est-à-dire avoir un coach. Professionnel, avoir un coach sportif et avoir un psy. Et je trouve que c'est une très bonne triade effectivement pour pouvoir faire face aux montagnes émotionnelles comme on dit. Les montagnes russes émotionnelles qu'on traverse quand on est entrepreneur. Et je pense que c'est une des meilleures protections entre guillemets puisque c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres, hein, donc il faut vraiment gérer l'effort dans la durée, c'est de faire justement attention à cet alignement permanent entre le corps et l'esprit.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en France, un coach, souvent mon mari me dit, un grand sportif, il est coaché. Pourquoi un entrepreneur ne serait pas coaché ou des managers? Et c'est vrai que la culture du coaching arrive quand même de plus en plus, je trouve, en France. Là, j'ai lancé un programme pendant le confinement pour aider les gens, à prendre conscience, de ce qui allait, ce qui allait pas dans leur vie. Et du coup, j'ai sollicité des coachs et 16 experts hyper reconnus. Et c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, après, on a envie de se faire coacher et c'est chouette parce que ça permet. Moi, je sais que je me suis fait coacher cet hiver et ça m'a aidé à me reconnecter en effet à qui je suis, quoi.
Je pense qu'en France, on a encore un gros problème vis-à-vis des. Enfin, aller chercher de l'aide, c'est reconnu comme un acte de faiblesse, en fait. Alors que précisément, c'est au moment où ça va bien qu'il faut aller chercher de l'aide, ouais. Pas quand on est au fond du seau. C'est le principe de la médecine chinoise, vous savez, dans la médecine chinoise, on ne paye son médecin que quand on va bien. Le jour où vous êtes malade, vous le payez pas précisément. C'est-à-dire qu'il a pas fait son métier correctement, qui est de vous aider à ne pas tomber malade. Ouais. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, se faire accompagner tout le temps, c'est ça qui évite justement les burn-out, le fait de complètement craquer. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on subit des tensions quand même assez fortes, je pense que c'est très important de garder une forme de santé psychique. Et ça tombe pas du ciel, ça se travaille. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a des choses à mettre en place pour que ça arrive. Par contre, c'est vrai qu'il faut une forme de discipline par rapport à ça.
Ouais. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'a chatouillé à partir de quand?
Moi, je pense que je suis vraiment une entrepreneuse dans l'âme. C'est pas ma première boîte. J'avais déjà eu une boîte de conseil. Et avant, j'étais journaliste, grand reporter, qui est un peu géré sa propre unité, finalement, de façon assez autonome. Donc voilà, je pense que moi, j'ai eu la chance, j'en parle souvent, d'avoir des role models. Donc, moi, j'ai eu des exemples sous mes yeux d'inspiration assez forte d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat féminin.
C'était des personnes, du coup, dans ton entourage proche ou des personnes que tu regardais, enfin, que...
Non, j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage proche ma tante, qui a monté les laboratoires Renobiol. Donc,
belle boîte.
Belle réussite. Surtout que c'est une boîte qui a été lancée il y a 30 ans. Donc, à un moment où, ça n'existait pas beaucoup, hein, les femmes entrepreneurs qui lancent justement des marques comme ça. En plus, ma tante est médecin à la base, donc c'est pas quelqu'un qui a un parcours forcément très orienté sur l'entrepreneuriat, l'économie, voilà, qui est pas une financière, enfin, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'abord de savoir que c'était possible. Et aussi d'en mesurer le prix. Et de savoir si, enfin, moi j'étais prête à payer ce prix. Le jour où j'ai dit à ma tante que je comptais, me lancer dans cette aventure, elle m'a dit, oulala, tu sais, no pain, no gain. J'ai dit, ok, bon. je pourrais pas dire que j'ai pas été prévenue, mais voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé cette aventure, j'avais pas 25 ans. J'avais déjà une forme d'expérience.
T'avais quel âge, du coup?
J'avais 36 ans quand j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et c'est vrai que je pense que cette espèce de... Enfin, le fait que ce soit un marathon, le fait que ce soit les montagnes russes émotionnelles... Voilà, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais vécues et auxquelles je m'attendais, en fait. Ouais. Donc, c'était pas si surprenant que ça. Disons, je savais pourquoi je signais, quoi.
Ouais. T'étais prête psychologiquement. Après, il y a toujours des trucs, des petites surprises, j'imagine, qui arrivent.
Oui, bien sûr. C'est toujours, enfin, et ça vient jamais de là où on pense, d'ailleurs. Mais,
pourquoi?
Ah, mais parce que je pense qu'on identifie bien, un certain nombre de freins, etc. Mais justement, les choses, enfin, les vraies difficultés sont précisément celles qu'on n'identifie pas tout seul, et d'où l'importance, comme je disais juste avant, de se faire coacher et pour pouvoir justement pointer des choses qu'on voit même pas. C'est une question que je me pose tous les jours. C'est comment on voit ce qu'on ne voit pas. Enfin, c'est comment faire pour voir ce qu'on peut pas voir spontanément par ses propres moyens. Donc comment est-ce qu'on s'équipe pour pouvoir voir des choses qu'on n'a pas envie ou tout simplement qu'on peut pas voir.
Ouais. Et du coup, t'as réussi à trouver une solution pour ça?
Notamment à travers le coaching, le travail avec un psy. Enfin voilà, je pense que et le sport aussi, d'une certaine façon, comme je disais, sur cette espèce de triptyque. Et puis bon, voilà. Après, il y a tout ce qu'il y a autour, évidemment, les amis, la famille, tout ça. Mais je pense que voilà, c'est un travail, en tout cas, de tous les jours et un travail personnel.
Ouais. Et donc t'as été expat avec tes parents, forcément. Quand il y a eu la question de se dire, à 6 ans, on a tous des rêves en se disant, un jour, quand je serai grande, je ferai ça. Toi, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête à cette époque-là?
Je sais pas. En fait, je crois pas que c'est assez drôle. Je crois pas que j'ai eu jamais ce genre de rêve-là. Enfin, si, je faisais de la gymnastique. Donc, il y avait à l'époque un dessin animé qui s'appelait J'aime la gym. Terrible dessin animé japonais qui passait sur la 5. Donc voilà. Moi, d'ailleurs, il était question que je fasse sport-études à la fin de la primaire. Donc voilà, je m'imaginais faire ça. Et puis après, c'est arrivé. Moi, j'ai toujours quand même eu cette idée de... Moi, je voulais être reporter de guerre, mais ça s'est arrivé un peu après, quand même pas à 6 ans.
Ouais.
Et je l'ai fait. Donc voilà, c'était ça mon but dans la vie, c'était de travailler pour la BBC et d'aller sur ce qu'on appelle des théâtres d'opération.
Pourquoi c'était ton rêve d'être reporter de guerre? Parce qu'il y a plein de gens qui diraient « mais moi, je veux surtout pas faire ça ».
Moi, je trouve que c'est... en fait, c'est être assis au premier rang de l'histoire. c'est vraiment avoir la possibilité d'appréhender les événements, des événements qui vont faire l'histoire, au moment où ils se passent. Ouais. Et donc, sans médiation, sans filtre. Et je trouvais ça absolument fascinant. Après, j'ai un côté un peu romantique. Enfin, en tout cas, j'avais un côté un peu romantique où je trouvais que voilà, la fleur au fusil, c'était magnifique de participer à des aventures collectives. Et puis, moi, j'ai toujours fait un choix qui est celui de... Je travaillais en l'occurrence pour la BBC, donc pas pour n'importe quel broadcaster. Ouais. Hein. La BBC, c'est quand même... Je pense encore aujourd'hui le média avec la plus grande responsabilité vis-à-vis de la population mondiale, puisque c'est vous qui informez tout le monde, partout dans le monde, dans X langues. Donc il y a une mission d'intérêt général aussi derrière ça qui, moi, me parle. Je pense que c'est un peu le fil rouge de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est l'intérêt général, quoi. Je pense que c'est vraiment mon moteur, donc... Je faisais déjà de la politique comme ça, et je pense que j'en fais toujours aujourd'hui à travers un biais différent, mais je pense que ce qui m'anime n'a pas changé.
Ouais, ta petite voix à l'intérieur, c'est celle-là. Mmh. Ouais. Et comme, donc ça, c'était ton rêve de rentrer à la BBC, comment t'as fait du coup pour y arriver?
J'ai eu de la chance. Donc moi, je suis diplômée de Sciences Po, je suis sortie en 2001, je suis de la promotion du président Macron.
Oh.
Et quand je suis sortie de Sciences Po, moi j'avais besoin de travailler très vite pour gagner de l'argent, donc je suis rentrée dans une boîte de pub où j'étais planeur stratégique. Ouais. Et puis je suis arrivée dans cette boîte le 10 septembre 2001.
Ouais.
Et le lendemain, c'était le 11 septembre. Et ça faisait déjà, moi, avant, il y avait eu le Kosovo, j'avais déjà appelé mon prof d'action humanitaire, c'était Jean-Christophe Ruffin, qui donc prit Goncourt, ambassadeur, etc., ancien président de Médecins Sans Frontières, et que je vais voir en lui disant, bon, la dernière fois pour le Kosovo, j'étais trop jeune, mais là, cette fois, je veux partir, il faut aller aider ces gens et tout ça, bref. Il me dit, écoute, je peux te présenter un ami journaliste au Figaro. Voilà, tu verras ce qu'il te dit. Et je rencontre la personne en question qui me dit, je pars lundi en Afghanistan, est-ce que tu veux venir? Ok. Donc là, je vais voir mon patron. Ça faisait même pas un mois que j'étais dans l'agence en question. Et je lui dis, écoute, voilà, je vais partir en Afghanistan, en fait. Et il me regarde, il me dit, ah bon, d'accord. Bah oui, très bien, pas de problème. Je garde ton poste ouvert. Bah oui, bien sûr, pas de problème. Voilà, un type formidable.
C'est clair. Ouais.
Non, voilà. Donc ça, c'était déjà gros. Enfin, c'est une succession de beaucoup de coups de bol. Hein. Et puis ensuite, donc, je suis partie dans des circonstances un peu rudes, puisque malheureusement, moi, j'ai fait partie d'une équipe de journalistes dans laquelle il y a eu des morts. Donc, je me suis occupée de rapatrier les corps. Enfin, voilà, c'était une expérience assez intense et qui m'a, je pense, aussi beaucoup fait réfléchir sur les implications de ce choix de vie-là.
Ouais.
Et qui m'a fait grandir très vite. Voilà. Et puis quand j'étais justement au Tadjikistan en train d'attendre le retour et tout ça, je regardais la BBC et je me disais quand même... c'est autre chose que tout ce qu'on voit ailleurs. Et puis voilà, je suis restée avec cette idée-là. Je suis partie m'établir. J'ai bossé pour Libération. J'ai bossé pour le Journal du Dimanche. Je suis partie m'établir dans le Golfe pour couvrir cette région. Voilà, pour plusieurs journaux. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une chaîne pan-arabe qui s'appelle Al Arabiya. Donc d'abord à Dubaï et ensuite à Londres. Et pendant que j'étais à Londres, il y a une amie qui m'envoie un jour une annonce. Une petite annonce qui avait été publiée dans Libération, qui disait « la BBC cherche quelqu'un à Paris ». L'annonce était déjà expirée, mais j'ai fait des pieds et des mains pour parler avec le chef du bureau de Bruxelles, qui était la personne qui recrutait pour toute l'Europe. Et il m'a dit « non, mais c'est fini, la période des applications est terminée ». J'ai dit non, mais c'est pas possible en fait. Vous devez regarder mon profil. Donc j'ai beaucoup insisté. Et j'ai bien fait puisque donc je sais plus combien il y avait de candidatures, mais c'était assez délirant. C'est moi qui ai été choisie. Et donc j'ai commencé en bossant pour la BBC à Paris. Et ensuite j'ai travaillé au siège à Londres pendant plusieurs années sur toujours des problématiques de politique internationale. Et voilà.
Ouais, tu t'es vraiment donné les moyens d'y arriver.
Je sais pas. Enfin, j'ai pas envie de dire que voilà, c'est tout grâce à moi. Je pense que c'est un mélange. Mmh. Je pense que il y a de la chance parce que clairement cette annonce, bon, bah voilà, il fallait que quelqu'un la voie, quelqu'un me l'envoie. Et puis après que tout, enfin voilà, c'est toujours un alignement d'étoiles. Après, oui, c'est vrai qu'on peut choisir de se placer sous l'alignement,
c'est ça,
ou pas.
Mmh. Ouais, faire rayonner pour qu'on fasse en effet que quelqu'un pense à toi, parce que si on parle pas de ses projets, en fait, personne ne pourra penser à nous pour telle chose ou telle autre.
Ça, c'est certain. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui disent ah non, moi, notamment quand on crée une entreprise, j'en disais mais t'as pas peur en parlant de ton idée que non mais l'idée ça vaut rien en fait. Enfin, c'est important bien sûr, mais en l'occurrence pour une entreprise c'est l'exécution et c'est un peu pareil effectivement sur les projets personnels. Il faut parler des choses, c'est clair. Il faut dire ce qu'on a envie, il faut dire voilà ce qu'on veut. Et sans filtre, c'est-à-dire quitte à passer pour un hurluberlu, c'est pas grave quoi. Enfin, et effectivement, il y a que comme ça que les gens penseront à vous au bon moment.
C'est ça. C'est pendant le confinement, j'ai eu différentes personnes au téléphone qui voulaient lancer des podcasts et qui du coup me posaient des questions. Il y a une personne justement qui m'a posé la question en me disant mais moi en gros je veux lancer un podcast dans un univers, mais elle me dit mais le truc c'est que si j'en parle, peut-être qu'on va me copier. Mais je dis mais en fait, enfin des podcasts moi sur ma thématique, il y en a plein, mais en fait après c'est le choix des invités, c'est la ligne éditoriale, c'est la façon de poser les questions. Et c'est en effet comme tu dis, c'est l'exécution qui change tout en fait. Et à l'époque quand je faisais du marketing, souvent je donnais des conseils en disant bah vous pourriez faire ça à des potes qui étaient entrepreneurs. Mais en fait je me rendais compte ouais que bah l'idée ça dépend comment tu l'appliques quoi. C'est il y a mille et une façons de faire d'une idée quelque chose. Qu'est-ce qui a fait du coup que t'as quitté la BBC?
Quand je suis rentrée à la BBC, j'avais vraiment, comment dire, une très haute opinion de ce à quoi servait cette institution. J'avais vraiment l'impression d'être au service d'une idée extraordinaire qui est l'éducation des adultes. En fait, mon frère, lui, il est prof, et moi, j'étais donc journaliste. Et d'une certaine façon, on s'était un peu réparti la tâche. Lui, les enfants, moi, les grands. Mais l'ambition, c'était celle-là. C'était, voilà, d'essayer de générer de la connaissance chez les gens, de leur permettre de mieux comprendre leur environnement, le monde, etc. Et malheureusement, il y a eu un tournant dans les médias. Je dirais dans les années 2000 où on a vu apparaître les chaînes d'information en continu et voilà, je pense que le niveau de réflexion c'est globalement appauvri et en fait le flux, enfin la surface a remplacé la profondeur et voilà, et je trouve que enfin moi ça correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. Moi franchement être devant un micro pour recracher de la dépêche AFP, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ce que j'aimais dans ce métier, c'était d'aller sur le terrain, de parler avec les gens, de prendre un peu de temps, de laisser le temps aussi pour que la pensée un peu complexe puisse trouver de l'espace. Et voilà, et c'était de moins en moins possible. Je me reconnaissais plus dans ce métier pour lequel j'ai trop de respect.
Et quand t'es partie en Afghanistan, comment ils ont réagi ton entourage?
Bonne question. Je pense qu'ils ont compris que c'était qu'il fallait en passer par là d'une certaine façon, que c'est ce que j'avais toujours voulu faire et que c'était complètement idiot de s'y opposer. Donc ils ont plutôt été très soutenants. Après, je me souviendrai toute ma vie de justement ce moment où j'ai atterri à l'aéroport militaire de Villacoublay avec des cercueils à côté et là, il était 4h du mat et il y avait mes parents, mes frères, mes sœurs et tout ça. Et je me souviens de la tête qu'ils faisaient quoi. Enfin, où je pense que et je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit t'as le droit toi de faire ce que tu veux, mais en fait c'est dégueulasse de faire porter ça sur les autres. Et en fait il y a des gens qui sont attachés à toi et donc tes choix les impactent et il faut aussi prendre ça en compte. Donc c'est pas eux qui m'ont empêché ou voilà, c'est pas le sujet, c'est juste que j'ai compris à ce moment-là ce que ça pouvait générer chez d'autres gens quoi.
Ouais.
Voilà. les répercussions que ça pouvait avoir sur d'autres vies, des choix qu'on fait pour soi. Ouais. Et je pense que voilà, je me suis dit qu'il méritait pas ça, quoi, de vivre dans l'inquiétude. Quand même, voilà, à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes en plus, donc il y avait quand même un certain délai entre le moment où les choses se passaient et le moment où les autres en avaient connaissance. Et je pense que ces moments-là, c'est très difficile à vivre.
Du coup, t'es reparti après dans des guerres ou après l'Afghanistan, ou c'était des zones de conflit mais moins chaudes?
C'était pas pareil, effectivement. C'était du conflit latent. Donc j'ai beaucoup couvert le Moyen-Orient. J'ai couvert aussi le Népal, qui est sur lequel il y a des problèmes frontaliers avec l'Inde, mais c'est pas la même chose. C'est pas du conflit avec des roquettes et ça se passe pas pareil, concrètement. Après, c'est pas forcément beaucoup plus sûr, mais c'est différent en termes de théâtre d'opération. Ouais. Ouais.
Et toi, à l'époque, t'avais pas peur?
Si, je pense que bien sûr, j'avais peur. Évidemment, quand je suis montée dans l'avion pour aller au Tadjikistan, je me souviens très bien que j'avais super peur. En plus, j'avais un sentiment de grande solitude, de grande inadéquation, d'impréparation, etc. Donc, qui venait encore renforcer la peur. Mais j'ai eu de la chance à nouveau parce que à ce moment-là, je suis retombée sur une copine dans la queue de l'avion pour aller au Tadjikistan où il y avait que des journalistes et des humanitaires. En gros, je suis tombée sur une de mes meilleures amies que j'avais perdu de vue à l'époque et qui venait de prendre un poste dans une organisation humanitaire. Et donc, voilà, c'était extraordinaire parce que j'ai eu cette espèce de, comme un canot de sauvetage, quoi. Genre, je suis pas toute seule. Enfin, voilà, il y a quelqu'un sur qui je peux compter, qui sera globalement quand même dans le coin. Une présence bienveillante, quoi. Ça tient à peu de choses, hein, finalement, mais ça peut être ça. Et effectivement, non, j'ai eu très peur, mais en fait, il y a un moment où c'est au-delà de la peur, quoi, parce que vous avez tellement pas de référence, en fait, sur ce que vous êtes en train de vivre, que c'est une émotion qui correspond même pas à ce qu'on pourrait appeler de la peur, comme quand, je sais pas moi, on tombe de vélo ou j'en sais rien. Enfin, c'est autre chose. Ouais. Voilà, ça ne se compare à rien d'autre. Ouais. C'est quand vous vous retrouvez pris entre des feux croisés de lance-roquettes multiples, ce qui a été mon cas. En fait, ça dépasse tellement l'entendement et le cadre de ce à quoi on a été exposé que c'est autre chose, quoi.
Ouais, voilà. Surtout, tu n'avais pas été préparée parce que c'était ta première mission, quoi.
Mmh, ouais. Et après, en fait, après, quand j'ai rejoint la BBC, c'est des gens sérieux. Donc, avant d'envoyer les gens sur des théâtres d'opération, justement, pour des questions d'assurance, on est soumis à une forme d'entraînement qui s'appelle Hostile Environment First Aid Training, donc un programme spécial qui est géré par les SAS, donc les forces spéciales britanniques, où on est envoyé dans une base militaire, en gros, pendant une semaine, et on est soumis à tout un tas de choses, notamment une prise d'otage et tout ça. Et ça, c'était totalement terrifiant parce que c'est du fake, mais en fait, vous avez complètement perdu l'idée que c'est du fake quand vous êtes dedans, quoi. Donc voilà. Donc là, c'était un moment aussi assez intéressant, ouais.
Ouais, ça forge.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis toujours, c'est que ça me sert énormément aujourd'hui sur cette idée justement de la résilience. C'est-à-dire que ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je suis pas revenue de l'enfer, mais en tout cas, je sais quelle tête ça a, à peu près, un peu de loin, mais quand même. Et du coup, bon, voilà, au pire quoi, enfin, je veux dire, au pire quoi? Est-ce que je vais mourir en faisant ce que je fais aujourd'hui? Mais non, évidemment que je vais pas mourir. Donc, voilà, je pense que j'ai eu l'opportunité, entre guillemets, de pouvoir tutoyer la mort de suffisamment de près pour, avoir une forme de recul. Alors, pas tous les jours, hein. Il y a des fois, je me laisse saisir, ça m'angoisse, etc. Mais globalement, je pense que j'ai une forme de détachement assez salutaire parce que je sais que je ne vais pas cesser de respirer. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre aux équipes. C'est-à-dire, nous, notre... notre comment dire notre motto, notre baseline chez Fleur d'ici en marque employeur, c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Donc voilà, il faut pas avoir peur de tomber, c'est pas grave, tout ça n'est pas grave, personne ne va mourir quoi. Enfin, j'essaie toujours de dire mais on fait pas de la chirurgie à cerveau ouvert ici. Enfin, c'est on n'engage pas la vie des gens, enfin en tout cas pas directement. on n'engage pas notre propre vie, donc tout
puis
va bien. Quoi.
Là, j'ai interviewé Maud Ankawa, qui sera l'épisode là que je vais diffuser cette semaine. Et Maud, elle a été entrepreneuse, mais elle a été DAF dans des très belles boîtes. Et aujourd'hui, elle est coach, conférencière et romancière. Et elle disait en effet, enfin, la chute fait partie du process de réussite. En fait, si tu ne tombes pas, tu ne peux pas. Enfin, c'est quand tu tombes 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Enfin, c'est ouais, si tu tombes pas, tu peux pas réussir parce que c'est l'accumulation des chutes et tu vas te relever. Puis un jour, bah, ça sera bon, quoi.
Ouais. Non, mais complètement, il faut. Mais ça aussi, c'est comme on disait tout à l'heure à propos du coaching. En France, on considère que se faire coacher, c'est pour les faibles, en gros. Et pareil, tomber, c'est un aveu de faiblesse. Mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, et malheureusement, le système français, si vous tolez une boîte, c'est évidemment pas comme aux États-Unis où tout le monde tole 100 boîtes et pff,
à limite,
c'est pas grave,
on n'investit pas dans ta boîte si tu t'es pas déjà tolé.
C'est complètement le cas. Et effectivement, en France, je pense qu'on a encore, c'est un peu en train de changer, je crois. Mais on a encore ce genre de réserve où on a une idée du succès comme étant une ligne linéaire qui est ascendante, alors qu'on sait bien qu'en fait, c'est un espèce de truc brouillamini avec des hauts, des bas, ça revient en arrière, ça repart. Enfin voilà, c'est beaucoup plus. Le process, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on aime à raconter.
Ouais, et puis on apprend, ce que je dis souvent dans le podcast, et c'est ce que tous mes invités disent, c'est que tu apprends en faisant. C'est, enfin, moi, de la première interview que j'ai faite, clairement, c'est loin d'être la meilleure, mais c'est, voilà, chaque fois t'apprends, tu peaufines, et puis, bah, c'est pas grave, il y en aura une qui sera moins bien, et puis c'est pas grave, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, effectivement, il faut. Je pense qu'il faut pas avoir peur de, bah, voilà, de tomber, effectivement, et au contraire, c'est, l'apprentissage, il est là, il est pas, enfin, de toute façon, on tombe tous. À un moment ou un autre, professionnellement, personnellement, des accidents de la vie, que ce soit la santé ou voilà ou d'autres choses, sur le plan plus familial. Aujourd'hui, bon, voilà, ça touche un peu tout le monde, donc autant y être préparé. En fait, ce que je dis toujours, c'est que on développe une forme quand même de souplesse en tombant, qui évite que, bah, du coup, la première fois où vous tombez, si vous tombez la première fois quand vous avez 50 ans, bah, vous allez vous casser le col du fémur, quoi. Alors que si vous tombez tous les jours un peu, bon, bah, finalement, c'est pas très grave, quoi. Enfin, voilà.
C'est clair. C'est ce que Maud disait, c'est qu'elle a appris le roller à 35 ans. Et le premier truc qu'on t'apprend en faisant du roller, c'est apprendre à tomber.
Ouais.
Parce que tu vas tomber. C'est inévitable.
Bien sûr. Ouais.
Et du coup, après la BBC, t'es partie chez Havas.
Ouais.
Ça a dû être bizarre de se retrouver derrière un bureau.
Non, moi, j'ai adoré cette expérience. En fait, j'avais un parcours, donc j'avais travaillé que pour à l'international et pour des boîtes internationales. Donc, j'avais vraiment besoin de mieux comprendre mon pays, en fait, auquel je suis quand même très attachée, et de comprendre aussi la culture du travail. Donc, j'y allais vraiment dans cette optique-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis attelée à travailler sur un compte bien franco-français, puisque je travaillais pour le groupe Carrefour. Et donc, avec des enjeux extrêmement variés, autour bien sûr de l'alimentaire, mais aussi de la banque, assurance, enfin bref, chez Carrefour il y a tout, il y a du voyage, banque, assurance, enfin bref, c'est vraiment multisectoriel. Et donc c'était super de comprendre, c'était quand même le premier employeur privé de France à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai
ça
pas regardé.
C'était en 2008,
et donc c'était vraiment hyper intéressant de découvrir un peu ce monde du corporate que j'avais pas tellement fréquenté. Enfin, en tout cas, c'était une réalité assez abstraite. Et là, ça m'a permis de justement de bien comprendre les enjeux de l'entreprise, de DRH, de la finance, les enjeux politiques au sein d'une entreprise. Enfin voilà, c'était hyper formateur. Donc j'ai adoré. C'était très dur.
Pourquoi ?
Bah parce que j'ai changé de métier et que personne m'a vraiment accompagnée, quoi. Donc et puis je me suis retrouvée tout de suite à un poste à responsabilité dans ce nouveau cadre. Et voilà, quoi. Je pense qu'il y avait plein de choses, notamment sur je pense que j'avais un certain nombre d'exigences en plus vis-à-vis de moi-même, qui n'ont pas forcément leur place justement dans le monde du corporate. C'est-à-dire, c'est ce que je dis maintenant aux équipes, c'est il faut accepter, quand les gens arrivent chez Fleur d'ici, We Trade Local, ils sont souvent un peu, pendant un mois et demi, il y a une phase de déconstruction en fait. Il y a une phase où ils ont l'impression de rien savoir faire, de ne rien avoir appris jusque-là, d'être totalement inefficace, et c'est ultra inconfortable. Et moi, c'est ce sentiment-là que j'ai eu. J'étais reconnue dans mon métier, j'avais déjà j'avais déjà quelques galons accrochés à mon épaule, et là je changeais complètement, et donc c'était hyper raide, quoi, d'avoir l'impression de servir à rien, de pas être compétente, d'être là, de pas comprendre à quoi je jouais. Enfin, c'est très 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 inconfortable. Mais en vérité, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est-à-dire que à l'époque, j'en voulais beaucoup à mon employeur en me disant mais quoi, vous pourriez m'accompagner et tout ça. Non, en vrai, non. C'est quelque chose, c'est un chemin. À nouveau, on peut avoir des guides, etc. Mais c'est un chemin qui est finalement très personnel, à nouveau. Donc et savoir se donner à soi-même. On dit en anglais cut yourself some slack. On ne sait pas comment on dit en français. S'autoriser finalement, voilà, à pas être productif pendant une période de un mois, deux mois, le temps de l'adaptation. Si l'entreprise dans laquelle vous êtes ne vous demande pas finalement d'être productif pendant, quel est le problème? Mais moi, l'entreprise comprenait tout à fait que je sois en train en adaptation, et on me demandait pas de faire des trucs invraisemblables. Mais c'est moi qui pensais que
une pression,
c'était inadmissible. Voilà, de me retrouver dans ce d'être aussi peu efficace et productive, etc. Ah. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce que je passe mon temps à dire aux gens quand ils arrivent ici, c'est OK, vous allez passer par cette phase très inconfortable. Je vous le dis aujourd'hui, écrivez-le, parce que vous allez pas vous en souvenir. Et puis aujourd'hui, je me dis oui, bien sûr, pas de problème. Puis dans 3 mois, vous allez pleurer. Donc, je vous le dis, on pourra en reparler à ce moment-là. Mais je vous le dis dès maintenant, ça va se passer comme ça. Parce que ici, d'une certaine façon, c'est pas seulement que les gens changent de métier. C'est que on a une vision de l'entreprise qui, en plus, est radicalement différente à la plupart de ce que les gens ont été, enfin de ce à quoi les gens ont été exposés. Donc,
qu'est-ce qui change du coup? C'est, tu me disais tout à l'heure que vous aviez une entreprise du coup libérée. Qu'est-ce du coup, c'est quoi les grandes lignes par rapport à une entreprise traditionnelle?
Ben, il y a pas de hiérarchie déjà. Donc, ça veut dire que les gens sont en très grande autonomie. Alors, ça peut avoir l'air comme ça ultra sexy, génial, les gens disent super et tout. Non, en fait, être très autonome, c'est très compliqué, parce que ça veut dire que vous portez la responsabilité de tout ce que vous faites. Et donc, en bien, mais aussi quand ça va pas, en pas bien. Et il y a plein de gens auxquels ça convient pas, en fait, qui veulent pas avoir ce genre de responsabilité, qui préfèrent qu'on leur dise quoi faire, à quel moment, etc. Et nous, c'est vraiment pas notre idée de comment les choses doivent fonctionner. Donc, tout est à créer. Les gens arrivent en disant, mais du coup, c'est quoi mes outils? Bah, je sais pas, vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux quoi? Enfin, voilà, on est plutôt dans cette espèce de logique hyper d'intelligence collective, finalement, mais qui est ultra responsabilisante. Donc, je pense que ça peut être totalement déroutant. En fait, plus les gens ont eu de l'expérience dans des grands groupes, plus c'est compliqué pour eux de s'adapter à ce mode de fonctionnement-là, où on est à la fois couteau suisse et à la fois grands experts, où on doit être tous plus ou moins interchangeables quand même, parce que bah on est encore une petite structure.
Vous êtes
donc,
combien aujourd'hui?
On est 15. Et donc évidemment on a des postes, hein. Moi un développeur back-end va pas se retrouver le lendemain, enfin quoique d'ailleurs il y a des fois où les développeurs back-end font du service client, parce que juste il y a un énorme rush et qu'il faut être capable de faire du service client. Après, les gens du service client, ils peuvent pas s'improviser développeur back-end, ça c'est plus compliqué, mais voilà. Donc non, il y a, ça demande une grande humilité finalement, et une grande confiance en soi, pour s'autoriser justement à faillir, à pas remplir, à avoir une to-do list qui est infinie en fait. Enfin, moi j'ai arrêté d'ailleurs de faire des to-do list, parce que en fait c'est trop angoissant, sinon elle est jamais finie, la to-do list, quand vous êtes en phase d'hyper croissance comme nous. Et puis en plus, les objectifs changent au fur et à mesure. Donc si vous avez un syndrome de la bonne élève, de il faut que je puisse mettre des croix sur les trucs que j'ai fait, me féliciter d'avoir fini une tâche, etc., c'est juste pas possible en fait. On finit rarement une tâche, parce que, et si les choses prennent trop de temps, bah en fait elles sont caduques, elles sont obsolètes avant même d'avoir
d'avoir été lancée,
voilà, d'avoir été terminée, ni même complètement lancée. Donc c'est hyper, ça peut être générer un sentiment de frustration terrible, parce que c'est un perpétuel recommencement. Alors après, il y a des gens qui adorent, qui trouvent ça super, et au contraire, d'être dans un environnement où on est tout le temps en train de re-questionner les choses, etc. Voilà, c'est vrai que ça demande quand même un fort degré de confiance en soi, je pense.
Ouais. Ouais, et puis dans soi, et puis du coup dans les autres.
Tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que nous, on fait confiance aux gens. Enfin, je veux dire, sinon, quel est l'intérêt de les faire venir ici? On n'est pas, on n'a pas des trous à boucher. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas, voilà. On pourrait, à vrai dire, on pourrait fonctionner avec trois fois moins d'effectifs, puisque tout repose sur de la tech. Donc, tout est essentiellement mécanisable d'une certaine façon, automatisable. Donc, pour nous, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur, enfin, voilà, les gens sont là parce qu'ils peuvent contribuer.
Ouais.
Et c'est ça qu'on attend d'eux. On n'attend pas d'eux qu'ils exécutent seulement. On attend d'eux qu'ils pensent l'avenir avec nous. Donc, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on améliore les choses? Comment on améliore les process? Comment est-ce qu'on permet d'intégrer plus de... Voilà. De comment est-ce qu'on remplit la mission de Fleur d'ici? Qui, donc, nous, on est une entreprise à mission. Et nos statuts, dans nos statuts, sont inscrits deux choses. La première, c'est la sauvegarde de l'horticulture locale. Et la deuxième, c'est le soutien au commerce de proximité. Et donc, voilà, c'est un objectif qui est quand même assez important, d'autant qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la déclinaison de notre tech sur d'autres filières. Aujourd'hui, on a fait la filière de la flore, on est en train de regarder d'autres filières, notamment dans l'agriculture. Donc, en fait, notre objectif, c'est ni plus ni moins de repenser le commerce pour y remettre plus de sens, de questionner la globalisation pour voir si elle pourrait pas être remplacée plutôt par du local et des circuits courts, mais à très grande échelle. Donc, voilà, c'est un chantier qui est massif et ça peut aussi être totalement déroutant. Enfin, je veux dire,
ouais, les gens peuvent se dire oh là là, c'est énorme.
Si je regarde le haut de la montagne, non, regarde pas le haut de la montagne, regarde le prochain virage, c'est déjà bien, tu vois. Et c'est,
ouais, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs. Tu vois, j'ai interviewé Mathieu Tordeur qui est un aventurier qui a fait Sciences Po aussi, et c'est le plus jeune aventurier français, et il a rejoint le pôle sud tout seul, en solitaire, sans ravitaillement et tout. Et il disait, en fait, s'il voyait l'objectif du pôle sud, il y a eu un moment, ça a été vraiment la galère. Il s'est dit, mais en fait, c'est trop loin, en fait. Donc, il a vraiment décomposé son voyage en micro-objectifs. Et bon, on disait que c'était un beau parallèle avec la vie d'entrepreneuriat, ou même la vie tout court, en fait.
Ouais, complètement. Je pense que moi, c'est mon associé qui fait ça très bien. Moi, je suis pas très douée pour faire ça. Moi, je suis plutôt la personne qui voit vraiment le... Il dit, on va aller sur Mars faire pousser des carottes. Donc, voilà, je sais pas très bien le traduire en petite mission, en le décomposer, en fait. Ça, c'est pas mon savoir-faire principal. Mais heureusement, c'est le savoir-faire de mon associé qui fait ça extrêmement bien, de découper les choses en petites portions, entre guillemets, pour que elles puissent être digérables, ouais, par les équipes, notamment. Et ça, c'est très précieux. Enfin, voilà, ça fait partie de nos grandes complémentarités. Mais sur ce point-là, c'est très frappant, en fait, à quel point c'est, voilà, c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir se fixer des objectifs qui soient atteignables, en fait.
Ouais, parce qu'en fait, souvent, dans les boîtes, on fixe des objectifs qui sont pas atteignables, ou on s'auto-fixe des objectifs qui sont pas atteignables, et tu, enfin, forcément, t'es jamais heureux, parce que si tu n'atteindras jamais tes objectifs, quoi.
Alors, moi, je fais partie d'une race un peu bizarre de gens qui ont pas besoin d'avoir des objectifs et de les atteindre, en fait. Moi, je poursuis une idée, donc c'est très différent, en fait.
C'est bien, c'est rare, mais c'est bien, c'est super.
Bah, je sais pas si c'est super. En tout cas, c'est pas très commun, je pense. En tout cas, pas dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que du coup, ça m'amène à être assez amène justement avec moi-même. C'est-à-dire que je pense que je suis pas dans une exigence de succès ou de réalisation des objectifs. C'est pas du tout la façon dont moi j'envisage les choses. L'objectif est tellement énorme de toute façon que voilà, j'en ai pour une vie, voire plusieurs vies. Donc c'est pas.
Ouais.
Voilà, ça, du coup, je ne mesure pas mon action, Dieu merci, à l'aune de ça.
Ouais. Et à partir du coup, de quand tu as créé ta première boîte? Tu nous disais tout à l'heure que tu avais monté une agence.
En 2010, j'ai créé une agence de conseil. Ouais. Puisque c'est ce que je faisais à l'époque en sortant de chez Havas, de conseil en communication. Je suis ensuite retournée dans le monde salarié parce que on m'a offert d'abord une très belle opportunité et surtout avec des équipes géniales. Donc j'étais vraiment très contente de servir et l'objectif puisque je travaille pour le Sommet mondial pour l'innovation dans l'éducation. Donc un endroit dans lequel on pense les pédagogies de demain qui font écho à ce constat qui est qu'on ne sait pas quels seront les jobs que feront nos enfants dans 20 ans, quoi, parce que la société se transforme tellement vite. Donc comment est-ce qu'on développe des savoir-être plutôt que des savoir-faire et quelles sont les pédagogies pour ça, donc à l'échelle mondiale. Donc c'était avec beaucoup d'influence des pays du Sud, etc., tout ce qui est ce qu'on appelle l'innovation frugale, donc qui repose pas que sur de la tech mais aussi sur des choses beaucoup plus simples et basiques. Donc voilà, donc c'était une super aventure et j'étais vraiment très heureuse d'y participer. Mais bon, pareil, une fois que j'ai fait venir Michelle Obama, je me suis dit que je pourrais difficilement faire mieux dans ma vie, enfin sur ce poste-là en tout cas. Et donc, je me suis dit qu'il était temps, effectivement. Enfin, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me convient bien. Cet objectif d'intérêt général, à nouveau, ça a toujours été mon moteur. Donc, aujourd'hui, je le fais à travers We Trade Local. Je pense que là, j'ai trouvé un bon challenge quand même qui va m'occuper pendant un bon moment. C'est-à-dire, voilà, remettre du sens dans le commerce mondial. Je pense que l'objectif, il est bien. Et du coup, je pense que je vais pas me lasser tout de suite. Et que la mission et le sens de ce que je fais aujourd'hui, il est... il est là, quoi. Enfin, moi, je me sens très alignée avec ce que je fais.
Ouais. Et à partir de quand, du coup, t'as eu l'idée de Fleur d'ici?
Alors, c'est une idée que j'avais depuis assez longtemps. D'abord, je m'appelle Hortense. Hortense, pour mémoire, ça vient du latin hortus, qui veut dire jardin. Et sinon, je devais m'appeler Iris. Donc, je pense qu'on a une petite indication sur mes origines familiales. Voilà. Donc, moi, je viens d'une famille de passionnés EES, parce que c'est plutôt quelque chose qui s'est transmis par les femmes. Sur la botanique, enfin voilà, il y a un côté un peu sorcière, et voilà. Et donc c'est vrai que je connais extrêmement bien les plantes, bien que n'ayant jamais fait un cursus quelconque en la matière, mais c'est une compétence que j'ai par atavisme familial, mais que j'ai vraiment, enfin je pense que je connais mieux les fleurs que, enfin je le vois d'ailleurs, que beaucoup de fleuristes et que même certains horticulteurs. Donc
il y a des personnes qui ont travaillé dans cet univers là dans ta famille, ou c'est, enfin,
comme non tu... pas non. Du tout, c'était pas une compétence professionnelle justement. Ouais. C'est vraiment une histoire d'intérêt personnel pour la nature en général. Après, bon, comme j'ai dit, ma tante, elle a quand même monté Eunobiol, qui est le premier acteur de la phytothérapie, donc il y a quand même un rapport avec les plantes, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un intérêt plus large, on va dire. Mais du coup, moi, j'ai une appétence pour le produit, que je connais bien, mais que j'aime. Et du coup, en fait, je comprenais pas pourquoi chez les fleuristes, les fleurs que je voyais n'avaient aucun rapport avec celles que je voyais dans la nature, dans un jardin ou dans la nature, les fleurs sauvages. Et donc, je me suis un peu posé la question et c'est là que j'ai découvert que 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement, que c'est un des commerces les plus polluants au monde, que il y a de la main d'œuvre essentiellement féminine qui est quand même très largement exploitée. Enfin bref, voilà, avec des problèmes de santé, etc. Et donc je me suis dit, mais moi qui ai été élevée dans une famille où je pense que ça ne serait venu à l'idée de personne de manger des fraises au mois de décembre ou des tomates. Enfin, on a toujours mangé, mais par bon sens, quoi, et limite par économie. Enfin, on mangeait des produits de saison. Enfin, voilà, je pense que de la même façon, on n'a jamais eu. Je n'ai jamais vu ma mère ouvrir une barquette de fleurs et michons, quoi. Enfin, ma mère est pas du tout un cordon bleu. Hein, c'est pas la question, mais c'est juste que. On a toujours mangé des choses simples, mais qui respectaient la saison, le local, enfin voilà. Donc assez rapidement, quand j'ai vu l'émergence de tout ce mouvement autour des circuits courts, moi j'ai fait partie, je pense, des premiers abonnés à La Ruche qui dit oui, etc. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que sur les fleurs, en fait, où il y a quand même 90% qui sont de l'importation, alors que je voyais bien que dans la nature, il y avait de quoi faire. Donc, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Je me suis dit, bah, progressivement, de toute façon, cette logique de relocalisation de la production, etc., elle va devenir évidente, ne serait-ce que pour des questions économiques à nouveau. C'est-à-dire, même si on n'est pas, comment dire, un militant écologiste, même si vous regardez juste les choses sous un prisme purement économique, le prix du carburant pour les avions, le prix du chauffage ou de l'éclairage, le prix de la main d'œuvre, parce que même ces pays-là, quand même, Dieu merci, il y a quand même un peu de progrès social, donc ça c'est des choses qui se renchérissent au fur et à mesure des années. Donc autant dans les années 70, ces choix-là ont pu avoir du sens, puisqu'on s'en fichait de savoir complètement de quelle était l'émission carbone de ce qu'on faisait et de pesticider les gens qu'on payait 10$ par mois, ça gênait personne. Autant aujourd'hui, je pense que toutes ces choses-là, c'est un peu périmé, quoi. Donc voilà. Donc rapidement, je me suis dit, mais cette logique de circuit court, elle va s'appliquer à d'autres secteurs. Et donc ça faisait depuis, je dirais 2010, ouais, que j'ai commencé à réfléchir à ce projet, et en me disant, un jour je ferai ça. Et j'ai toujours saoulé tous mes potes en disant, non mais vous verrez, un jour je vais faire ça. Et puis j'ai eu la chance, donc en 2015 j'étais enceinte, enfin j'ai eu un enfant, et en fait qui a été assez malade et qui donc mon congé maternité ça a été un peu prolongé, et en vérité je me suis dit, mais je vais pas retourner bosser. Enfin, c'est quoi le sens de la vie, quoi? Enfin, je veux dire, j'avais justement réussi donc à faire venir Michelle Obama. Voilà, je pense que j'avais bien tout coché là, toutes les cases. Je me suis dit, non, mais ok, entre retourner bosser en laissant ton fils à la crèche qui manifestement va pas très bien, et aller bosser pour finalement gagner de l'argent, parce que la mission elle était déjà accomplie. Bon. Voilà. Et donc j'ai profité de ce moment-là pour négocier un départ et voilà, et commencer en fait un tout petit peu plus tôt que ce que je pensais faire, parce que je m'étais de toute façon fixé cet objectif-là, mais plutôt à horizon 2017. Voilà. Mais donc du coup j'ai commencé un peu plus tôt, en 2016. Et voilà. Et j'ai eu de la chance à nouveau. Je suis allée dans une conférence organisée par les alumni de Sciences Po chez Paris Pionnière, et puis la fille à côté, qui était assise à côté de moi, je lui fais mon elevator pitch, quoi, et je lui dis, voilà, je vais faire ça, tout ça. Elle me dit, mais c'est génial ton truc, tu sais, il y a un programme, il y a un incubateur qui est exactement pour toi. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, il s'appelle Les Audacieuses, c'est un programme de La Ruche, la communauté des entrepreneurs sociaux. Moi, je débarquais, je savais même pas ce que c'était un entrepreneur social, je savais pas ce que c'était un incubateur, voilà. Et elle me dit si, si et tout. Et donc, je me renseigne. Et effectivement, je postule. Et par miracle, je suis prise. Voilà. Donc j'ai démarré, en fait, le programme d'incubation en septembre 2016. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et entre-temps, j'ai un copain qui m'avait prêté un bureau, un bout de bureau. Et j'avais fait déjà toute une partie de benchmark, d'études et tout, qui m'a permis de rédiger le projet sur la base duquel j'ai été sélectionnée. Mais voilà, ça m'a permis aussi de ressortir de chez moi. Parce que quand on a un enfant petit, c'est pas toujours simple. Cette transition, ce retour vers le travail, c'est pas toujours facile. Ouais. Et le fait d'avoir un lieu, c'est aussi quelque chose de très important.
Ouais. Et du coup, est-ce que ton fils a un prénom de plante ?
Non, pas du tout. Non, non, il a échappé à cette malédiction familiale.
Et donc là, du coup, tu crées la boîte, tu investis toi-même. Enfin, c'est un gros investissement au départ pour monter la structure, ou c'est...
Non, nous on est un modèle de plateforme, donc ouais. C'est un modèle avec très peu d'immobilisation au départ, justement. Après, ce qui coûte de l'argent, c'est de développer la partie techno. Ouais. Mais ça, heureusement, dans mon entourage proche, j'avais des gens qui pouvaient m'aider là-dessus.
D'accord.
Et qui l'ont fait en pro bono, voilà, pour m'aider au départ et créer un peu l'architecture initiale du modèle de données qu'on utilise aujourd'hui pour gérer, notre, la filière.
Ouais.
Et voilà. Et sinon, non, il y avait pas grand chose. Moi, la première question que je me suis posée, moi, je me connais quand même assez bien. Donc, je sais ce que je sais faire, mais je sais ce que je sais pas faire aussi. Et donc, autant je sais que je suis un bon front. C'est-à-dire, je suis une bonne commerciale, une bonne communicante. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'aspect, structuration, financière, voilà, tout ça, c'est pas mon fort, quoi. Je suis pas très très amie avec Excel. Donc je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui avait un profil très complémentaire.
Donc rapidement, tu t'es dit que tu aurais besoin d'une associée.
Ouais.
Ouais.
Enfin, un ou une associée. Ouais. J'avais pas de préférence. Et puis donc j'ai fait énormément de rencontres entrepreneurs cherchent associés, etc. Enfin voilà, tout ce networking là. Et puis bon, voilà, j'étais un peu en train de me désespérer. Et puis j'ai eu de la chance puisque en fait très tôt moi j'ai fait des médias.
Ouais.
Justement.
On ouais, t'as eu beaucoup de presse.
Ouais. Mm. Et donc il y a eu un article dans Oui Demain, un long article sur le slow flower qui est paru en novembre 2016. Et par chance, il a été lu par Chloé, qui est devenue mon associée, donc, qui m'appelle donc en janvier en me disant « Ouais, j'ai vu l'article, moi je travaille chez Leroy Merlin, je suis justement acheteuse sur le végétal, j'ai eu moi aussi cette idée, mais le projet il est tellement énorme que je me suis dit que t'aurais sans doute besoin de quelqu'un. »
Et j'ai trouvé ça... Parce qu'elle savait même pas que tu cherchais une associée.
Non, mais j'ai trouvé ça génial parce que... Elle aurait pu se dire, ah, flûte, il y a quelqu'un qui s'est déjà mis dessus, je vais me positionner en compétition. Enfin, voilà. Et Chloé, elle a toujours eu cette intelligence de se positionner en coopération, en collaboration. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très fort chez nous dans la culture de l'entreprise et dans la façon dont on appréhende les relations avec nos partenaires. C'est qu'on a vraiment cette culture de la coopération, de la collaboration, donc quelque chose d'assez horizontal. Que moi j'avais pas du tout par exemple parce que voilà c'est pas des modèles d'entreprise que j'avais jamais vu nulle part et voilà et je trouve que c'est très j'avais trouvé ça extrêmement intelligent quoi enfin et en même temps je trouvais ça complètement déroutant enfin je me disais mais comment ça t'as pas envie d'être de faire ton truc à toi enfin c'est bizarre quoi et voilà et en fait c'était effectivement ce qu'il y avait sans doute de plus intelligent et on a commencé comme ça. Donc, elle est arrivée en février 2017.
Ah, du coup, ça s'est fait vachement rapidement.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Et on a commencé en vérité l'exploitation. On a commencé en septembre 2017.
Quand tu dis l'exploitation?
La distribution des produits. D'accord. Et vendre. On a commencé en septembre 2017 sur le B2C, donc sur la clientèle des particuliers. On a toujours su qu'on ferait essentiellement du B2B, donc clientèle.
Du coup, le métier pour les personnes qui nous écoutent, si on doit décrire le petit elevator pitch, ce que vous vendez entre guillemets.
Alors justement, il y a deux choses. We Trade Local, c'est notre système, notre tech en fait. Elle permet d'agréger des unités agricoles de production locale avec des unités de transformation artisanale locale et des unités de distribution décarbonée locale et des clients évidemment dans un écosystème qui est à l'échelle de la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur notre premier produit qui est la fleur, donc là, ça s'appelle Fleur d'ici, la promesse c'est fleur 100% locale de saison.
Pas de roses à la Saint-Valentin.
Pas de roses à la Saint-Valentin, puisqu'elles sont donc importées et que si vous regardez dans la nature, vous verrez qu'il n'y a pas de roses dehors au mois de février, mais qu'il y a en revanche tout un tas d'autres fleurs, notamment des tulipes, des giroflées, des anémones, etc. Du mimosa. Voilà. Et donc, en gros, comment ça fonctionne Fleur d'ici? Si vous avez, vous commandez sur la plateforme un bouquet à être livré à Bordeaux, aujourd'hui, il sera préparé par un artisan fleuriste bordelais qui se sera engagé à ne travailler qu'avec des fleurs locales, qu'on aura mis en lien avec des horticulteurs locaux. Il sera préparé à partir de fleurs d'Aquitaine et livré par un coursier en vélo ou vélo cargo, en tout cas mode d'émission non carboné, à un client local. La même chose, si vous avez besoin d'un bouquet qui soit livré à Marseille, il sera préparé par un artisan fleuriste marseillais à partir de fleurs de PACA, etc., etc. Donc, ce qu'on fait, ça s'appelle du multilocal. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une marque national et prochainement international, mais qui garde la même promesse à l'échelle voilà, locale, mondiale, etc.
Ouais. Et comment du coup vous avez dû aller faire entre guillemets du porte-à-porte auprès des artisans pour les fleuristes et tout pour les associer à la démarche?
Ouais, au début c'était exactement ça, c'était de leur dire voilà notre idée, voilà l'ambition, voilà la mission, est-ce que t'as envie de monter à bord? Et en même temps, contrairement à, ça existe hein, ce modèle de plateforme, c'est Interflora,
ouais.
C'est le modèle où voilà, on agrège des artisans fleuristes, où il y a des droits d'entrée, nous on n'avait pas de droits d'entrée, donc voilà, donc ils prenaient pas grand risque à travailler avec nous. Je veux dire, au pire, enfin, on leur apporte des commandes, donc ça leur demande pas plus d'investissement. Justement, nous, on a toujours veillé aussi à comment dire, s'articuler avec leur quotidien à eux. C'est-à-dire, on est parti de leurs besoins, de leur façon de travailler, et on leur a apporté un complément qui soit absorbable, voilà, à leur échelle. Donc, il y a, voilà, c'est quelque chose qui était très souple. Qui l'est toujours d'ailleurs, et qui ne fait que leur apporter du chiffre d'affaires complémentaire. Ouais. Donc, il n'y avait pas trop de difficultés.
Il n'y avait pas d'emballage spécifique, parce que là, je pense spontanément, tu as le bouquet Interflora qui arrive avec tout le plastique et compagnie.
Non, mais c'est parce que justement, Interflora ne cadre pas ce truc-là avec les fleuristes, alors que nous, effectivement, on a une charte très stricte, à la fois sur la direction artistique des bouquets, et à la fois sur effectivement en fait on fournit à tous nos fleuristes partenaires un kit en fait avec le papier d'emballage qui est du craft recyclé avec des encres végétales, il y a évidemment pas de plastique, du raffia, enfin que des matières naturelles et biodégradables, les petites cartes qui vont bien, etc. Enfin voilà, oui, effectivement on les a équipés très tôt, mais bon, ça c'est pas, je veux dire, c'est pas un investissement, faire imprimer 100 feuilles de craft, c'est pas un investissement majeur, quoi. Enfin,
ouais, c'est pas ça qui.
Ouais. Non, c'est pas ça qui demande de faire une levée de fonds à 5 millions. C'est pas. Voilà.
Parce que du coup, vous avez fait une levée de fonds, une première levée de fonds à 900 000 euros.
Ouais.
Comment ça s'est passé, le fait d'être une femme, en plus deux femmes?
Ben voilà, c'est ça. On était deux femmes et on faisait des fleurs. Donc, parce que les gens avaient pas. Puis je pense qu'on l'avait pas bien communiqué, l'ambition qui était d'aller. De fait que les fleurs, c'était une première verticale, un premier POC en fait, mais que derrière.
POC, proof of concept.
Mais que derrière, il y avait effectivement d'autres. Enfin, que l'idée n'était ni plus ni moins que de disrupter le commerce mondial, quoi. Et voilà. Et donc, je pense que. C'est pas simple, parce que des filles qui font des fleurs, autant nos camarades de Bergamote, c'est deux garçons, et enfin la plupart des new players qui sont sur ce marché-là, c'est des hommes en fait. Et donc les investisseurs ne les suspectent pas de faire ça par passion, en fait, de faire une crise de la quarantaine et genre ah oui ben je vais tout plaquer et puis j'ai décidé de devenir fleuriste. Non, personne ne se dit ça d'un homme, mais de deux nanas. Et puis en plus dans le monde de l'impact, et puis en plus on fait de l'insertion, et puis en plus, donc tout ça c'est trop beau pour être vrai, quoi. Ça fait genre non mais ok, vous êtes dans le monde associatif, vous êtes pas dans le monde économique, alors que pour nous c'était assez clair que les deux allaient de pair, qu'on est for good, for money, on est là pour à la fois avoir de l'impact sur la société, transformer une filière pour la rendre plus vertueuse, et à la fois le faire à grande échelle, et c'est pour ça que ça gagne de l'argent. C'est parce que justement on n'est pas là pour faire un petit truc, quoi, dans notre coin. L'idée, c'est vraiment de transformer les choses. Donc, ça va avec une forme d'ambition qui rejoint l'ambition économique, in fine. Même si l'argent n'est pas notre moteur principal, il se trouve que, oui, c'est productif, quoi. Donc, et que les deux vont de pair. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est encore assez mal compris en France, le fait qu'on puisse articuler performance économique et performance environnementale et sociétale.
Ouais. Du coup, vous avez quand même réussi à faire votre levée.
Ouais. Ouais. Heureusement, ça a été long et ça a été. Mais en même temps, quelque part, je pense que ça nous a rendu grand service, parce que le fait de pas être le hit truc où tout le monde s'emballe, etc. Ça nous a aussi, je pense, évité des mauvais mariages, dans le sens où les gens, du coup, qui sont montés à bord, c'est des gens qui sont alignés avec nous en termes d'ambition, à tout point de vue, c'est en termes d'ambition et de valeur. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent qu'on veut aller très loin et relativement vite, mais voilà, qui pensent pas que c'est contradictoire avec le fait de, d'essayer de pas détruire la planète encore plus que ce qu'elle n'est déjà. Mais vraiment, je pense qu'il y a, un certain nombre de... C'est très idéologique, en fait, ça repose sur rien, hein, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que... Non, soit tu gagnes de l'argent et tu salopes la planète, soit...
Et tu détruis tes équipes aussi, accessoirement.
Voilà, et tu salopes les gens et les hommes et tout ça, enfin bref. Soit tu fais un petit projet dans ta cuisine et qui n'en sortira pas, quoi. Mais non, je veux dire, il n'y a pas de problème à faire quelque chose de dimensionné. Et au contraire, c'est même, enfin, c'est le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de transformer la filière, faut s'en donner les moyens. Enfin, je veux dire, et c'est des moyens économiques et qui rejoignent, en fait, les ambitions économiques. Donc pour nous, il n'y a aucun, mais vraiment, enfin, c'est absolument pas contradictoire. C'est même l'un nourrit l'autre, quoi.
Ouais.
Mais bon, voilà, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire dans la tête des gens sur ce plan-là.
Et donc là, du coup, t'es jeune maman, tu montes ta boîte avec une ambition mondiale. Comment t'arrives à équilibrer ta vie à toi, ta vie de couple, ta vie de maman, ta vie prof ?
Je dis souvent que je pense qu'avoir un enfant, un enfant petit en plus, ça sauve. Parce que ça oblige, en fait. Ça oblige à toucher le sol, quoi. Je veux dire... Faut l'emmener à l'école, faut aller le chercher, faut lui donner à manger, donc il faut quand même faire ses courses. Enfin voilà, ça donne une forme de rythme qui est hyper salutaire parce que, et d'ailleurs, je pense que je dis souvent, j'aimerais pas être un jeune entrepreneur de 25 ans, voilà, qui a pas vraiment d'autres attaches ou d'autres obligations, parce que je pense que très rapidement on pète les plombs, quoi, parce que on touche plus tard, quoi. Enfin, je pense que la tentation peut être très forte de travailler H24, de s'isoler, de jamais, enfin voilà. Le fait d'avoir un enfant, bah, je trouve que ça, justement, c'est voilà, c'est salutaire. C'est un peu comme s'obliger à faire du yoga ou autre chose. Enfin, c'est la même chose, c'est la même dynamique. C'est comment est-ce que il faut garder du temps pour soi. Enfin, ou en tout cas pour autre chose. Je sais pas si c'est du temps pour soi, parce qu'un enfant, c'est rarement du temps pour soi. Mais bon, d'une
certaine
façon.
Quand il dort et quand tu le regardes dormir.
Ouais, mais dans ces cas-là, ouais. Tu te remets à bosser en général. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui te permet de t'extraire de ton quotidien d'entrepreneur qui est hyper prenant. Voilà. Donc, que ce soit à nouveau à travers le sport, à travers le fait de s'occuper de ses enfants, moi, ce que j'en retire, c'est effectivement cette capacité à être en dehors, de pas être dans cette obsession permanente de et comment je vais faire sur tel truc, etc. Parce que sinon, c'est non-stop, y compris quand on dort. Hein. Donc, oui. Voilà.
C'est
par
clair.
Contre, quand vous êtes en train de, je sais pas moi, de donner le bain ou des trucs comme ça, vous êtes obligé d'être quand même un peu présent, quoi. Ouais. Enfin, je pense.
Et quand t'as monté ta boîte, comment ton entourage il a réagi ? Y a personne qui t'a dit mais t'es complètement taré, t'as un enfant en bas âge, c'est peut-être pas le moment, retourne à ton job de salarié.
Ah bah si, tout le monde. Mais ça c'est la base. Hein. C'est les gens ont peur, donc. Ils ont peur et puis ils pensent que te protéger, c'est te dire de effectivement de bien rester dans le rang. De, voilà, moi j'en parlais hier avec quelqu'un qui me disait je me fais la bovacade, je dis mais quand même vous étiez arrivé très haut dans les grands groupes, etc. Est-ce que c'est pas risqué parce que finalement si jamais ça marche pas qu'est-ce qui va se passer, comment vous allez rebondir, parce que vous savez les grands groupes ils aiment pas les entrepreneurs, etc. Je dis bah ouais ok, mais enfin de toute façon ils m'aimaient pas déjà avant, donc enfin ce que je veux dire c'est que et puis en plus cette idée comme quoi un grand groupe protège, bah bon, moi ce que je vois c'est plutôt des gens de 55 ans qui se font débarquer, non ? Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a cette idée comme quoi les grands groupes, rester dans un grand groupe c'est bien, ça protège, etc. Mais en vérité autour de moi je vois surtout des gens qui ont plutôt 55 ans et qui se font débarquer, donc je suis pas totalement sûre. Enfin quelque part, moi ce que je disais c'est merci de ta sollicitude et je comprends ton point. Maintenant, je pense que c'est peut-être le choix le plus sage, finalement, de devenir son propre patron à plutôt à 35 qu'à 55 ans, parce qu'on a plus de capacité à s'adapter, hein, plus de souplesse, voilà. Et voilà, et je pense que finalement, c'est peut-être voilà le choix le plus raisonnable, in fine. Puis bon, voilà. Après, il y a aussi toutes ces questions d'être aligné avec soi-même, de faire ce qui plaît, quoi. Enfin, je pense que c'est il y a un moment où on peut comment dire, faire bonne figure et privilégier un certain nombre de choix, y compris en acceptant des questions de politique interne qui sont pas forcément toujours très productives. Et puis, voilà, on peut tout à fait s'en accommoder, ou alors on fait le choix de se dire, bon, finalement, à quoi bon, quoi.
Ouais. J'ai vu que tu avais reçu le Chevalier du Mérite de Nicolas Hulot. Mm. C'était en début d'année.
En fait, j'ai été nommée par Nicolas Hulot quand il était encore au ministère. Ouais. Après, l'organisation de la remise, effectivement, s'est faite en décembre dernier. Et voilà, effectivement, ça fait partie de... Enfin, c'est très touchant, hein, évidemment, d'être, comment dire, reconnu.
Tu postules pas, c'est on te nomme ouais. spontanément.
Ouais,
génial.
Non, tu peux pas postuler.
D'accord.
C'est un choix. Après, il y a plein de gens qui s'organisent pour que leur nom soit murmuré aux oreilles des décideurs. Moi, c'est pas mon cas. À tel point d'ailleurs que quand j'ai reçu le mail me demandant ma date de naissance, etc., pour voilà m'enregistrer dans le process, je reçois le mail et on était à l'époque en négociation avec le ministère de l'écologie, enfin de développement durable, pour être leur fournisseur en fleurs et plantes. Et c'était mes genres des discussions sans fin avec l'administration et tout. Et le moment où je reçois le mail où ils me disent on a besoin de votre date et lieu de naissance, là j'ai pété un câble, j'ai failli répondre en mode non mais ça va aller quoi, enfin vous êtes la police ou quoi. Au moment où j'allais renvoyer le mail, je regarde l'intitulé de l'objet et là il y avait écrit Ordre national du mérite. Ah d'accord, ok. Non, okay, pas de la même chose. D'accord, je vais vous donner ma date de naissance, il y a pas de problème. Voilà. Mais c'était donc voilà. Donc non, je m'y attendais pas du tout et c'est hyper flatteur et voilà, moi qui suis quand même très attachée aux institutions, à la République et tout ça, je suis très flattée de faire partie de.
Ah c'est voilà, super.
De cette ouais. cohorte.
Ah, c'est super beau. Qu'est-ce que tu penses que la petite Hortense de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Je pense qu'elle serait vraiment très contente que je fasse des fleurs. Que j'ai quand même un métier, que même si je fais de la tech, je fais de la logistique, hein, l'essentiel de mon quotidien, c'est pas... Enfin, moi, je manipule pas les fleurs. Je le regrette, d'ailleurs, mais... Mais voilà, mais je pense que elle trouverait que c'est quand même cool. D'ailleurs, c'est ce que dit mon fils. Il dit, maman, elle est fleuriste. Je trouve ça quand même trop cool, quoi. Enfin, c'est bien que, qu'il ait cette idée que, en tout cas, voilà, je suis au service de la nature. Je pense que c'est quelque chose qui plairait à la petite Hortense de 6 ans et c'est quelque chose qui plaît à mon fils qui a presque 5 ans.
qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens ou quels sont les tiens aujourd'hui?
On en parlait juste avant, c'est vrai que j'ai renoncé à un certain confort, même si aujourd'hui je gagne bien ma vie, hein. C'est pas ça le confort. Le confort, c'est aussi une forme de sécurité et de certitude sur l'avenir qu'on n'a pas quand on est entrepreneur, même si les années passant, on en a de plus en plus, Dieu merci. Mais ouais, je pense que... Après, c'est aussi... Il y a quelque chose de plus personnel qui est que c'est une aventure tellement singulière que c'est compliqué de la partager, en fait. Il y a un moment où... Et c'est pour ça que c'est très important et que les entrepreneurs ont tendance à se regrouper entre eux et à avoir des espèces de, voilà, de groupes de parole. Enfin, ça s'appelle pas des groupes de parole, mais c'est pas les alcooliques anonymes, mais c'est pas loin quand même. Il y a un côté un peu, c'est très addictif en plus. Donc il y a c'est pas simple d'en parler avec des gens qui sont pas dans cette dynamique là. Donc je pense que ça est seul un peu.
Ouais. Parce que dans ton entourage, t'as des entrepreneurs?
Oui, comme j'ai dit, j'ai ma tante qui est entrepreneur, ouais. mais qui est quand même d'une autre génération, ouais. et voilà, et à qui dont je suis pas super proche non plus. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au quotidien, quand vous allez rejoindre des amis, boire un verre au resto ou quoi, souvent, moi, j'ai tendance à me taire parce qu'en fait, c'est difficilement communicable, en fait, je trouve. Voilà, mais bon, je pense que c'est comme toute expérience un peu pas extrême, mais quand même assez raide. Je pense que c'est... Enfin, quand je dis ça, on a l'impression que je parle de souffrance, mais c'est pas le cas, c'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, je m'éclate, j'adore ce que je fais, enfin, voilà. Et donc, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, c'est quand même... C'est particulier, quoi.
T'as des euphories que les gens ne peuvent pas comprendre et des inquiétudes que les autres ne peuvent pas comprendre, quoi.
Ouais, c'est, effectivement, il y a un delta, enfin, il y a un delta tellement fort entre d'un jour à l'autre, etc., que c'est très difficile de partager ça.
Ouais. À partir de quand, du coup, t'as pu te payer?
Au bout de 2 ans.
Ouais. Après la fin du chômage.
Ouais.
C'est mon mari a créé sa boîte et au bout de 6 mois de la boîte, je l'ai rejoint. Et souvent, je lui ai dit, je suis restée pendant 6 ans dans sa boîte. Et souvent, je lui ai dit, en fait, ça m'a énormément aidée, en fait, d'être avec toi, en fait, au quotidien. Parce que le soir, quand tu rentrais et que tu faisais la gueule, je savais pourquoi j'avais pas besoin d'aller frapper à la porte de l'homme dans sa caverne. Et c'est vrai que, ouais, c'est la vie d'entrepreneur. Pour l'entourage, parfois, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Et c'est un univers très... Si t'as ton conjoint qui est dans un grand groupe et toi t'es entrepreneur, t'es dans
un grand écart. Ouais,
ouais, t'as pas le même langage, quoi.
Non. Effectivement, le vécu est très différent.
Ouais. C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que t'as eu à gérer et comment tu l'as gérée?
La plus grande difficulté, qui reste la plus grande difficulté, c'est d'attirer les talents, en fait. Enfin, c'est de savoir s'entourer. Alors, on a la chance, comme nous, on est déjà un binôme très complémentaire, de pouvoir justement attirer des profils très différents, puisque à nous deux, on couvre un spectre assez large de personnalités. Mais c'est très difficile, effectivement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de faire comprendre aux gens quel type d'expérience ils vont pouvoir vivre ici. Et j'ai aucun intérêt à prendre des gens et à les virer. Enfin, je veux dire, c'est du turnover, c'est du temps perdu, c'est de l'investissement pour rien. Enfin, c'est vraiment pas dans notre intérêt, nous, que les gens valsent. Voilà. Donc, on est très attentif à ce point-là. Et à essayer de faire, enfin voilà, cette alchimie là, elle est quand même assez. Alors, elle échappe en partie. Je pense qu'on est meilleur aujourd'hui qu'on l'a été. Je pense qu'on est plus attentif. Et puis aussi, plus on a de visibilité, plus on attire des profils intéressants. C'est clair. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est ça la plus grande difficulté, je pense.
Ouais. Ouais, c'est un vrai enjeu d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits et pas perdre de temps et que surtout par rapport à ce que tu disais, le fait que d'avoir des gens autonomes, c'est de capter les bons profils, quoi. Mmh. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Je pense que c'est le fait de faire vivre, attention, le fait d'apporter quand même, ouais, c'est presque 2 500 € par mois par fleuriste qu'on leur apporte. Donc c'est considérable, hein. Enfin, je veux dire, faut s'imaginer ce que c'est que le revenu d'un artisan fleuriste. Donc je pense que c'est ça, c'est garder, c'est notre maître mot, comme je l'ai dit, c'est empowerment. Donc il y a vraiment cette idée de garder les gens autonomes, d'être leur propre patron, mais de les soutenir dans cette démarche-là. Et qui plus est, nous, notre réseau, que ce soit chez les horticulteurs ou chez les fleuristes, c'est un réseau qui est très féminin. Donc, je pense qu'on est un gros acteur. On est un acteur important au service de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, de cette espèce de... J'ai commencé en parlant de mon vélo et de la dimension d'émancipation, etc. Je pense que c'est ça, quoi. C'est que on aurait pu créer un modèle beaucoup plus classique avec un atelier, une usine où on payait les femmes 1 200 € par mois pour faire des bouquets. Mais nous, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de dire vous êtes votre propre patron et surtout, c'est important que vous continuiez à fonctionner comme ça, parce que il y a cette fierté, justement, quand les gens sont autonomes et indépendants, ils ont une fierté qui se ressent dans la qualité de ce qu'ils produisent. Quelqu'un qui travaille pour lui, il fera un truc qui est toujours plus qualitatif que quand il travaille pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc nous, c'est quelque chose à quoi on est très attaché et qui fait partie des valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est l'idée, c'est comment est-ce qu'on amène les gens à grandir et comment on les accompagne là-dedans. À la fois sur un plan humain, de compétences, etc. et à la fois sur un plan économique.
Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un que tu croises qui te dirait « mais en fait, t'en es là aujourd'hui uniquement grâce à de la chance ».
C'est pas faux. Je pense que ça fait partie. Je pense que j'ai eu de la chance, c'est clair. Après, comme j'ai dit, je pense que c'est aussi une forme d'intuition, de savoir se placer sous l'alignement des étoiles, déjà de savoir où il est, et puis de se dire tiens, si je me déplaçais d'un pas de côté là, bah peut-être que la chance elle va tomber. Mais effectivement, c'est l'alliance des deux.
Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne et du coup tu voudrais donner aujourd'hui ?
Même pour moi qui ne suis pas atteinte du syndrome de la bonne élève, je pense que j'avais quand même des freins ou des choses à dépasser en termes d'ambition. C'est-à-dire que quand je vois l'écosystème dans lequel on évolue des startups, les gens n'ont aucun mal à raconter, mais n'importe quoi. Mais vraiment, enfin, quand je dis je vais aller planter des carottes sur Mars, les gens ils te regardent, ils font ouais, ok, ouais, moi plutôt sur Mercure. Ok. Et voilà. Je pense que nous, on est quand même un peu plus pragmatique. Et le pragmatisme, c'est quelque chose qui est assez mal perçu dans cet environnement parce qu'il est perçu justement comme un manque d'ambition. Bon, voilà. Moi, je suis assez mitigée sur cette question-là. Mais néanmoins, c'est vrai que je pense que j'ai entendu Thomas Rebaud, qui est le patron de Miro, qui est donc la nouvelle licorne française, etc. Je l'avais rencontré. Il disait ce truc génial. Il disait, mais en fait, il faut pas se poser la question, comment dire, il faut pas que l'ambition elle soit limitée par le comment je vais faire. Faut juste raconter ce qu'on a envie de faire. Donc moi, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de transformer le commerce mondial. Voilà. Maintenant, je le dis. C'est bon, quoi. Enfin, après, les gens me disent mais comment, mais pourquoi. Là, on peut rentrer dans un certain nombre de discussions. Et bien sûr que c'est ça va être c'est un objectif à long terme et que ça va être plus compliqué et que nanana. Mais je crois que c'est Mark Twain qui disait ça, je sais plus qui dit ça, mais c'est une citation d'Oscar Wilde qui disait visez la lune, vous atterrez toujours dans les étoiles. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je pense que il y a déjà la vie est suffisamment faite de plein d'obstacles et de péripéties. On peut au moins s'autoriser à se dire OK. En vrai, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est pas genre je veux être député. Si vous voulez être président de la République, faut dire je veux être président de la République. Faut pas dire je veux être député. Enfin, voilà, c'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est cette idée de le combat que je suis en train de mener. Si je l'upgrade à fond, si je le mène au maximum de qu'est-ce que ça donne en fait?
Ouais, si on enlevait les et si, c'est
les et comment et machin. C'est pas. En fait, faut pas se poser ces questions-là.
Ouais, c'est quoi l'objectif final et puis on verra après les...
C'est quoi l'ambition vraiment? Ouais. C'est quoi l'idée fondamentale? C'est que si tu prends ton idée et que tu la maximises à fond, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et c'est ça qu'il faut dire.
Mmh. Ouais, c'est un sacré conseil. C'est quoi tes prochains challenges?
Ah bah là, non,
à court terme, du coup, pas... Parce que bon, t'as un challenge énorme, mais du coup, en plus petit...
À court terme, on fait notre deuxième levée de fonds là.
Okay.
Donc, en post-Covid, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après, nous, on a la chance d'être quand même, d'une certaine façon aussi, servis par les circonstances, parce que le Covid a révélé que toute la part du commerce qui repose justement sur les importations, à un moment où les frontières ont été fermées, bah, ça a montré que le local avait quand même une forme de résilience intéressante. Donc la thèse, en tout cas, sur le fait que, enfin, on en entend, tous les jours quand j'écoute la radio, j'entends parler de ça. Enfin, encore ce matin, j'entendais le patron de la CGT qui parlait de ça. Enfin, c'est tout le monde en parle. C'est vraiment devenu un sujet. Personne ne sait comment faire. Ça tombe bien parce que nous, on sait. Donc voilà. Donc je pense que c'est d'arriver à. Et comme je viens de le dire, les circonstances nous servent. À faire comprendre que cette idée du local n'est pas un truc de perché, de rêveur, quoi. C'est accessible, ouais. C'est possible. Grâce à la tech, aujourd'hui, on peut faire du multilocal. C'est pas du tout une idée, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, notamment les agriculteurs, qui voudraient vendre en local. Bon, là, clairement, pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont organisés. Moi, je vois, j'étais confinée à la campagne. Ils se sont auto. C'était marrant parce qu'au début, c'était un email via la mairie. Après, ils ont créé un mini site web. Enfin, c'était fou de voir en 2 mois comme ils se sont professionnalisés. Mais bon, ça reste pas leur métier en fait, et donc c'est sûr que d'ajouter cette couche là qui n'est pas leur métier, ça, il peut y avoir de grandes choses qui puissent se faire rapidement, quoi.
Ouais. Et je pense qu'effectivement les gens sont, enfin les agriculteurs en particulier sont prêts.
Ouais. Et du coup la levée de fonds là, c'est le montant, tu l'annonces ou c'est un truc non je pose la question parce que parfois je sais qu'on ne dit pas. Et ça, à quelle échéance vous aimeriez
Alors l'objectif pré-Covid c'était à l'été, donc ouais. Là je pense que voilà, ce sera plutôt fin d'année.
D'accord. Bon, on en reparlera.
Ouais.
On en reparlera plus tard. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Ouf, la liste serait très longue. Hein. Du coup, j'ai peur de, si je choisis quelqu'un, évidemment, je vais laisser tous les autres. Choisir, c'est renoncer. Donc bon. Bah, quand même, je pense à ma mère en premier lieu parce que c'est ce truc-là, cette certitude que c'est en se plantant qu'on devient cultivé, que c'est pas grave de se tromper, etc. C'est quand même voilà, couplé avec une forme d'ambition en plus. C'est-à-dire que c'est pas non plus c'est les deux. C'est vraiment ce truc de dire essaye, fais ce que tu veux, et mais en même temps donne-toi les moyens, quoi. Donc je pense que c'est quand même assez voilà. Et après mon associé, je pense. En tout cas, au titre de ce que je fais aujourd'hui et qui nous vaut la conversation, ouais, à mon associé.
Ouais. Bon. Merci beaucoup, Hortense.
Merci.
À très vite. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Rendez-vous sur pourquoipasmoi.co pour retrouver le lien de Fleur d'ici et découvrir la photo de Bucéphale. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?